Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, qui nous a réservé un programme musical de sa composition. Et nous avons la grande joie d'accueillir Noël Herp pour Ma vie avec Bernard Pivot. C'est un petit livre, mais je dirais c'est un trésor de lecture et ça vient de paraître aux éditions Plein Jour. Noël Herp, bonjour.
Bonjour.
Donc vous étiez déjà venu, je crois. Vous connaissez les studios. Vous connaissez Bibliomanie ?
Oui, j'ai eu grand plaisir à venir pour parler d'un livre que j'avais publié il y a 4 ans à peu près.
Voilà.
Ça s'appelait Souvenir écran et où je me souviens que vous aviez lu le livre de manière très précise. Moi, j'ai posé des questions pas assassines, mais précises, quoi. Voilà, et c'est suffisamment rare pour être signalé et apprécié.
Merci à vous. Noël Herp, alors vous êtes l'auteur de 25 livres, vous êtes aussi historien du cinéma et cinéaste, homme, j'allais dire, de l'écrit et de l'écran. Et finalement, votre livre, c'est le passage de l'écran à l'écrit et de l'écrit à l'écran. Quelle a été l'idée de ce livre, Ma vie avec Bernard Pivot ? J'avoue que nous avons peut-être tous eu une vie avec Bernard Pivot, de nos générations.
Bah oui, vous avez raison, l'écran à l'écrit, oui, le petit écran... au petit écrit,
oui,
au court
oui,
écrit en tout cas.
Ouais.
Je dirais peut-être plutôt de la scène à l'écriture, parce que finalement le livre il est conçu comme une série de scènes. D'ailleurs il devait au départ s'appeler La scène,
oui,
en hommage à Léonard de Vinci, puisque j'étais parti du postulat que Pivot c'était un peu le Christ et ses disciples. D'ailleurs il y a une photo, ça rit en régie.
Oui, ça rit.
Il y a une photo amusante où on voit Pivot face à Jean Dutour, Michel Déon, Jean d'Ormesson, Henri Troya. Ils ont vraiment l'air d'être les disciples du Christ. En plus il y avait des hommes quasiment à l'époque.
Ouais,
apostrophe. Donc, bon, ils étaient peut-être un peu moins jeunes que les disciples, et Pivot avait moins de barbe. Mais en tout cas, voilà, je voulais montrer apostrophe comme un lieu de partage, un lieu où l'on rompt le pain des mots, et où on partage la littérature, mais avec aussi, donc il y a une certaine peut-être nostalgie là-dedans, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais il y a aussi cette dimension de théâtre. C'était le théâtre de la littérature, c'est la mise en scène dans les deux sens du mot scène de la littérature. Et j'essaie de montrer comment moi, petit personnage, petit garçon, petit adolescent, disons, regardant l'émission dans les années 80, petit à petit, à la fois je suis fasciné par cette scène et en même temps j'essaie, tant bien que mal, peut-être plus mal que bien, de m'en détacher.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Bernard Pivot est un metteur en scène ? C'est ce qui apparaît dans votre livre. En tous les cas, c'est un homme qui a fait du petit écran... une ouverture vers l'écrit, vers la découverte quand même de l'univers d'un certain milieu littéraire.
Il n'est pas le premier, c'est-à-dire qu'il y avait eu avant lui de grands hommes de télévision,
oui,
comme Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet, Roger Stéphane, Jean-José Marchand, qui avaient fait des grands entretiens avec Monterland, il y avait eu Lecture pour tous, Portrait souvenir, etc. Même Michel Pollack avait commencé à faire une
oui,
émission
tout
littéraire,
à fait, ouais.
S'était fait virer parce qu'il avait
comme d'habitude.
comme d'habitude, il avait été censuré comme d'habitude.
Ouais.
Puis il était revenu ensuite, évidemment, par la grande porte avec Droit de réponse, qui est encore une autre émission géniale, sur laquelle il y aurait un livre à faire. Je pourrais très bien faire un livre, c'est pas Ma vie avec Michel Pollack. Mais ce serait très différent parce que c'était plus un intellectuel, il avait une dimension anard de droite, très différente de Pivot, qui était finalement quelqu'un d'assez neutre, d'assez... Si j'étais méchant, je dirais un peu petit bourgeois, mais il avait en même temps cette espèce de plasticité, de souplesse et d'intelligence presque intuitive qui lui permettait d'accueillir tous les états de la littérature, tous les états de l'écriture, dirais-je plus largement, car il n'invitait pas que des écrivains consacrés, contrairement à Dumayet. C'était aussi bien des hommes politiques, ouais, des chanteurs, des gens qui avaient écrit un livre et qui pouvaient revenir à l'anonymat. Mais il avait ce flair de faire appel à une grande diversité de gens et en même temps de créer des dialogues, de créer du conflit, de créer de la crise, ce qui n'était pas le cas de ses prédécesseurs qui se contentaient de recevoir l'écrivain sur son fauteuil. Donc là, tout d'un coup, il y avait des étincelles parce qu'il mettait très souvent ensemble des gens qui étaient comme chien et chat, dont il savait que ça allait produire des étincelles, et il s'amusait beaucoup à jeter de l'huile sur le feu. Donc il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui des clashs, mais il a inventé surtout une sorte de dimension à la fois conflictuelle, qui aujourd'hui peut-être a pris des formes un peu excessives, mais aussi une forme dialectique ou dialogique oui. de la littérature. C'est-à-dire que tout d'un coup, les écrivains, apostrophe, se parlaient.
Se parlaient, s'engueulaient.
S'engueuler.
S'apostropher, c'est qu'à le dire.
D'où le titre de l'émission, bien sûr.
D'où le titre de l'émission. Avant, c'était Ouvrez les guillemets, je crois qu'il avait eu une
Absolument,
émission.
Absolument, oui, oui, oui.
Alors, il y a une phrase qui m'a quand même, c'est la phrase que vous avez mis en exergue de votre livre. Des émissions de télévision traversent ce livre. J'ai pris soin, en l'écrivant, de ne pas les revoir. Donc, vous avez quand même revu des apostrophes, c'est pas possible.
Ah, mais pas du tout.
Alors, voilà, c'est pour conserver votre souvenir.
La fraîcheur du souvenir.
Ouais.
J'ai revu, bien sûr, des apostrophes, mais ça, je le raconte dans la deuxième partie du livre,
oui.
quand, avec mon jeune compagnon de l'époque, Cyril Duret, nous nous regardons sur l'INA de vieux apostrophes. Et les apostrophes qui l'intéressent, lui, c'est pas tout à fait les miens. Moi, c'était Bukowski, c'était Claude Mauriac, Julien Green. Lui, il va avoir envie de voir systématiquement tous les Edmond de Charleroux, tous les Alain Robbe-Grillé, parce que ça correspondait à ses tropismes et à son goût, comme ça, du vintage années 80, qui n'était pas forcément le mien. Moi, dans les années 80, j'allais plutôt chercher des gens de la génération d'avant. Lui était fasciné par ça. Donc, du coup, on regarde un peu en boucle toutes ces émissions, on regarde toutes les prestations de François Nourricier. On a même été regarder Marc-Edouard Nab, parce que Marc-Edouard Nab, au début, était un phénomène insensé.
Ouais.
Donc, je raconte ça, mais c'est déjà un souvenir pour moi. C'est déjà un souvenir que le fait de me souvenir d'avoir revu ces émissions avec Cyril, ou tout seul aussi, par la suite. Il y a eu plein de moments dans les 10 dernières années où, profitant des codes que m'a très généreusement alloué l'INA, j'ai pu regarder des dizaines de livraisons d'apostrophes et redécouvrir des émissions que j'avais vues à l'époque, ou découvrir des émissions que j'avais pas vues. Donc, c'est ça que je raconte. Mais par contre, dès que j'ai décidé d'écrire ce livre, dès que j'ai eu cette espèce d'étincelle solitaire du livre, c'est-à-dire, ah bah tiens, je pourrais écrire un livre sur apostrophe, qui a quand même tant compté dans ma vie, là, je me suis interdit scrupuleusement de regarder des émissions pour faire le livre, parce que je me disais, sinon je vais tomber dans une démarche d'historien, et c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire.
Non, non, c'est une démarche littéraire, c'est
Absolument.
Une démarche d'écrivain. Alors, Bernard Pivot, l'émission, je crois, c'était en 1975, il y en a 760, hein, je pense. Est-ce que ce sujet vous a choisi? Est-ce que vous aimez vous aussi vous laissez choisir, parce que ce livre, il faut bien dire, donc c'est ma vie avec Bernard Pivot, mais c'est aussi votre vie avec votre père, c'est une parenthèse de votre vie familiale, on le sent, vous êtes une sorte de tête à tête aussi avec votre père, donc il y a une sorte de parenthèse de votre vie où il y a finalement le témoin aux charges ou à décharge, c'est l'émission de Bernard Pivot, puisque c'est un rendez-vous, c'était tous les vendredis, hein, on dit tout. Moi je m'en souviens, on était tous à entendre l'émission. Voilà, donc est-ce que c'est... Quel a été le processus, enfin pour vous, c'est-à-dire... on sent que vous avez envie de parler de votre père en même temps. Voilà. Comment,
oui.
ça, c'est... Comment ce livre est né? Bon, il y a Bernard Pivot, il y a le... on est devant... Voilà. Mais en même temps, il y a l'absence de dialogue et le dialogue qui s'instaure aussi avec votre père, qui est un personnage... en lui-même formidable.
Oui. C'est très intéressant cette question, parce que j'avais l'idée de faire un livre sur comment apostrophe avait accompagné ma vie. Je pensais pas que mon père allait y prendre une place aussi importante. Et au début, j'avais commencé par quelque chose d'un peu plus large, où j'évoquais les émissions littéraires des années 50, voilà, par une sorte d'effet de travelling avant qui fait je partais d'une vision, c'est ce qu'au cinéma on appellerait un establishing shot, hein, je montrais une sorte de plan large de la littérature à la télé depuis les années 50, y compris dans ma propre expérience, puisque de quelqu'un qui va beaucoup sur l'INA, et puis petit à petit, j'arrivais à apostrophe. Et puis il y a eu un déclic, un rosebud, un truc magique, qui fait, mais apostrophe, c'est mon père, c'est le salon de mon père, où est-ce que je regardais apostrophe? D'où je parle, finalement? Où est-ce que ça se passait? C'est ça qui est important, et c'est ça qui fait que c'est de la littérature. C'est pas de dénombrer comme un catalogue tout ce qu'on a vu à apostrophe. C'est qui j'étais à ce moment-là et quel était mon décor. Et d'ailleurs, j'ai tiré ce fil. Je dois avouer, c'est pas la première fois que j'écris sur mon père. Hein, dans la plupart de mes livres, il est très présent. Mais là, je dois avouer que j'ai eu un plaisir de récit assez merveilleux à ressusciter ce qui était pourtant une déchéance, une dépression. Hein. Mon père était quelqu'un de pas très dynamique, mais en même temps qui me fascinait, pour qui j'avais beaucoup d'amour, de tendresse, et le fait de revivre ces moments passés auprès de lui sur une banquette usée, dans un salon où il y avait des vieux livres poussiéreux qui restaient sur le radiateur depuis des années et qu'il n'avait jamais changé de place, où il restait couché quasiment, il avait 5 patients par semaine étant chirurgien dentiste, puis le reste du temps il lisait les journaux. Bon, toute cette atmosphère comme ça un peu décrépite, un peu sinistre, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'y retrouver, peut-être parce que j'ai un besoin de m'appuyer sur le passé dans ce qui peut avoir de parfois de plus déprimant ou de plus flamboyant, puisque là on est dans les deux extrêmes. D'un côté on a le côté déprimant du décor familial et on a le côté très flamboyant du salon d'apostrophe. Et moi, entre les deux, qu'est-ce que je suis, qui étais-je entre les deux, qu'est-ce que je suis devenu, qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? C'est un peu l'énigme de la subjectivité qui est en effet, pour moi, la raison d'écrire.
Et puis, vous habitiez pas le 5e arrondissement, donc il y a aussi un arrière-plan de Paris. Alors, votre père, donc, était chirurgien dentiste, enfin, vous dites, le seul art qu'il pratiquait était celui de la conversation. Et je dois dire que la conversation nous manque bien actuellement. Je ne sais plus si on a cet art de la conversation. C'est peut-être pour ça, ça explique le succès de l'émission de Bernard Pivot.
Oui, ça explique aussi peut-être pourquoi par la suite je suis devenu le biographe de Romère, ouais, qui est vraiment le cinéaste, s'il en est, de la conversation, ouais, qui n'est jamais passé apostrophe, parce que par ailleurs c'était quelqu'un de plutôt taiseux. Ouais. Mais oui, il y avait ce que j'appelais à l'instant le salon, les salons, ouais, hein, c'était ouais, un peu une survivance des salons de l'Ancien Régime, ce goût de... Vous savez, il y a ce mot de Joubert que j'aime beaucoup, qui dit en art, en France on aime les arts pour en juger plus que pour en jouir. Et il y a vraiment ce besoin en France de discuter de la littérature, et qui est toujours un peu plus ou moins lié à la politique, de débattre, de ferrailler. Et Pivot a été le dernier à recueillir cette tradition et cette idée d'une société littéraire, hein, c'est-à-dire où il y a des préséances, il y a des droits d'aînesse. Quand il recevait François Nourricier, il ne le recevait pas de la même manière que Marc-Edouard Nabbe. Il y avait des rondes serviettes, il y avait des hommes politiques qui venaient parler de littérature, parce qu'à l'époque, les hommes politiques étaient cultivés. Il y avait Raymond Barre qui revenait régulièrement, Valéry Giscard d'Estaing qui se croyait obligé de parler de Maupassant pour montrer qu'il avait de la culture, Mitterrand qui faisait son numéro, qui était lui vraiment cultivé. Donc voilà, et je pense aussi que j'ai été fasciné par cette idée qu'il y avait encore chez Pivot que la littérature était une grande famille, hein, et que tout ces, il y avait un être ensemble de la littérature. Il y avait un quartier de la littérature qui était Saint-Germain-des-Prés, il y avait le quartier des éditeurs, ça existe encore aujourd'hui. Mais enfin, il me semble que tout ça, c'est un peu désillusionné, démythifié. Et moi, j'avais peut-être besoin, parce que ma famille à moi a été complètement tombée en loc.
Oui, c'est ça.
De me raccrocher à cette famille idéale.
Oui, alors, toujours au sujet de votre père, d'ailleurs, vous dites son propos, « Je souffrais de le voir ainsi constamment distribuer son verbe à des inconnus, transformer notre intimité quasi conjugale en un forum ouvert à tout vent et où revenaient toujours les mêmes sujets. » Mais on pourrait dire, votre père, il est aussi le fruit de sa génération. C'est quand même les années 70, enfin, on est 75, là, on est vers les années 80, et on refaisait le monde.
Oui.
Il y avait cette culture, oui, de contester même, de la contre-culture, c'est-à-dire on refaisait tout le temps le monde. On parlait tout à l'heure de Pollack, le débat, la conversation, elle n'était pas simple, c'était juste, on refaisait tout le monde. Moi j'ai des souvenirs dans Paris, Saint-Germain-des-Prés, etc. Les gens de cette génération-là, et nous on est, mais enfin on a... c'était un réflexe, le réflexe de verbaliser, si on peut dire. On parlait de cinéma, parce que là vous habitiez aussi un quartier, je pense au Champollion par exemple.
Oui, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'était aussi c'était peut-être pas qu'un truc de gens de gauche, mais c'était quand même, il y avait une particulière manière qu'avaient les gens de gauche de culture 68 arde de créer du débat, hein. Et pour moi, c'était pas, avant d'être le Quartier Latin, c'était le Luberon, parce qu'on habitait dans le Luberon. Ouais. Donc il y avait d'interminables discussions à la table de famille où s'invitaient tous les personnages les plus improbables et où mon père vituperait l'état policier, Raymond Marcellin. On parlait du Larzac, on parlait du MLF. J'ai même retrouvé dans les archives de mon père, qui était un hétérosexuel pur jus, mais j'ai retrouvé une brochure du Front homosexuel d'Action révolutionnaire de Guy Hockenheim, que ensuite je vais retrouver à la télé attaquant violemment Georges Suffert, etc. Donc effectivement, il y avait aussi cet aspect-là Et mon père était sensible d'ailleurs à ces figures de mai 68, à des gens qui représentaient une continuation de cette contre-culture, car il était plus que moi, qui était un jeune réactionnaire en fait, il était plus que moi soucieux de voir se perpétuer cette espèce de culture, je sais pas s'il faut dire anard, parce qu'il avait aussi un côté de droite, mais anard de droite, bon, dans son cas, je sais pas si ça s'appliquerait, disons qu'il aimait choquer, il aimait contester, c'est quelqu'un qui par exemple, ça a peut-être choqué des auditeurs, mais le lendemain de l'élection de François Mitterrand, il m'a emmené au Salon du Livre, et il avait acheté un numéro de Minute, et il se baladait en vendant un numéro de Minute le lendemain. Vous voyez, donc ça, c'était vraiment ce désir de choquer à tout prix.
Mais je pense que c'était l'époque aussi.
L'époque,
on pouvait... Alors, pour revenir à votre livre, puisqu'on va parler de Bernard Pivot, Noël Herpe, j'envie les auteurs de dictionnaires qui arrivent l'espace d'une notice à mettre en boîte les revenants. Mais vous ne voulez pas mettre en boîte les revenants. Donc, la boîte, c'est le petit écran. C'est cet objet, la télé, qui a d'abord été noir et blanc, puis couleur, avec plusieurs chaînes. Enfin, on a vu l'évolution. Alors, vous situez, par exemple, les mimiques de certains écrivains. Je pense que vous parlez de Monterland. Vous avez une grande admiration pour Monterland. Alors, je pense que c'est lui dont vous parlez. Il a cette manière particulière d'ouvrir les A ou d'élider les E muets, propres aux hommes de l'entre-deux-guerres. Un mélange de désinvolture et d'emphase. Un titi parisien déguisé en empereur romain. Petit à petit, il s'éloigne de ses feuillets, écarte ses lunettes. Il va peut-être tomber le masque. Et c'est ça que vous guettez dans ces séquences. C'est le moment où il va y avoir une faille et l'écrivain va faire passer quelque chose, pas forcément un message, mais quelque chose de son univers, de son âme.
Oui, parce que justement, je pense que ce qui m'a fasciné dans cette émission, c'est que l'écrivain était un grand masque, une statue, il y avait un côté hiératique, une certaine posture de la littérature, et puis tout d'un coup, chez Apostrophe, aussi à cause des coups de boutoir de Bernard Pivot qui avait à côté Sainte-Beuve, on découvrait une certaine humanité faillible derrière ce masque de la littérature. De ce point de vue-là, je me demande si Pivot n'a pas amorcé le règne qu'on connaît aujourd'hui de l'autofiction, d'une certaine désacralisation de l'écriture qui fait que aujourd'hui les écrivains se dévoilent peut-être trop d'ailleurs, on est peut-être tombé dans l'extrême inverse.
Il n'y a plus de mystère.
Il y a certainement plus du tout le mystère. En tout cas, il n'y a plus du tout la mythologie qu'il pouvait y avoir autour de gens comme Monterland ou Claudel, qui étaient là, qui se drapaient dans le marbre, qui généralement lisaient un texte qu'ils avaient écrit avant,
Nabokov
qui connaissaient
aussi
les questions à l'avance, ou même Julien Green.
Ouais.
Alors évidemment, on a encore un petit écho de ça dans les émissions, ce que j'appelle la succursale d'Apostrophe, qui s'appelait « À vous écrivez », et où là, Pivot recevait seul à seul, ou plutôt « Aller chez l'écrivain, parce qu'il n'était pas question de les recevoir. Donc, il allait chez Georges Simenon, il allait chez Julien Green ou chez Marguerite Yourcenar, et là, c'était le grand écrivain qui, du haut de sa chaire, délivrait son oracle. Donc, vous avez raison, c'est vrai que ces figures m'intimidaient et je guettais toujours le moment où la statue allait tomber de son socle.
Alors, pour Monterland, par exemple, vous dites « L'appartement de l'écrivain devient un décor de théâtre où règne la tradition de l'illusion. » Mais bien plus, on sent, pour revenir au côté marionnettiste de Bernard Pivot, Pivot créait des monstres inédits qui semblaient surgir de nulle part, du jour au lendemain, René Girard ou Vladimir Yankelevitch devenaient connus de l'homme de la rue. Est-ce qu'il y a toujours eu un avant Pivot ? Il y a un effet avant Pivot et après Pivot. C'est vrai que de toute façon, ceux qui étaient passés Apostrophe, vous voyez leurs livres, étaient connus. En fait, leur vie, c'était bien plus que leurs livres, c'était leur vie qui rentrait... Tout le monde la connaissait.
Ils devenaient des personnages, oui, des personnages familiers. Les gens les reconnaissaient dans la rue. Moi, je me souviens effectivement avoir reconnu Yankelevitch dans la rue parce que je l'avais vu à Apostrophe. Il y avait tout d'un coup cet effet-là qui transformait les écrivains à la fois en acteurs, en performeurs et qui leur donnait un tout autre statut, bien sûr. Alors ensuite, il est certain que des écrivains comme Christine Angot, par exemple, aujourd'hui, Christine Angot, elle n'existerait pas aujourd'hui dans cette espèce d'effusion de sa personnalité et qui déborde de beaucoup son œuvre d'écrivain s'il n'y avait pas eu Apostrophe, qui tout d'un coup a reculé les limites de la littérature. Alors évidemment, il y avait des gens qui n'allaient pas à Apostrophe. C'est sûr qu'on n'aurait pas vu Samuel Beckett ou Julien Gracq à Apostrophe, et qui s'y sont sûrs non plus d'ailleurs, qui s'y sont obstinément refusés. Mais il y en a qui ont joué le jeu et qui l'ont joué d'ailleurs jusqu'à un certain racolage. Je pense à d'Ormesson par exemple, qui finalement... Enfin, je le dis dans le livre, il y a des écrivains, non seulement il y avait des écrivains dont la seule raison d'être semblait de passer à Apostrophe, mais il y y en a certains qui finalement ont construit toute leur œuvre à partir du prestige que leur avait donné Apostrophe.
Oui, et qui, l'œuvre d'ailleurs est oubliée depuis que Apostrophe est arrêtée, les écrivains apostrophés, on n'entend plus parler. Je voudrais qu'on parle de Simenon, par exemple. Ces fameux, quand Bernard Pivot allait voir, il y a eu Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, tout le monde se souvient de l'après, hein, et quand il a été à Mont-Désert. Pour Simenon, ça a été très émouvant, la rencontre entre Pivot et Simenon. Simenon qui écoute en direct quand même la voix de, qui nous fait écouter la voix de sa fille qui s'est tuée, quoi. Enfin, c'est...
Ben oui, il y avait quand même, on oublie à quel degré d'indécence on pouvait atteindre. Déjà, avec ce Simenon qui, pendant l'émission, donc rebondissant sur un livre de souvenirs qu'il venait d'écrire, va écouter, mais actionner un magnétophone, ouais. On va entendre la voix de sa fille morte, qui se livre à une sorte de déclaration d'amour à son père, et Simenon est là, au bord des larmes. Il y a là quelque chose qui... Qu'est-ce que... Finalement, on peut s'interroger aujourd'hui, on peut se demander, mais quel besoin avec quelqu'un comme Simenon, qui avait tout ce qu'on pouvait avoir en termes de succès, qui était sans doute l'écrivain le plus vendu sur la Terre, et qui avait quand même ce besoin, tout d'un coup, de se foutre à poil devant la caméra de Pivot, qui en plus n'était pas le dernier à l'y pousser, hein, parce que même si Pivot savait très bien ce qu'il y avait dans le livre, il fallait que ça intervienne en direct et que donc l'écrivain devienne le performeur de son texte.
Peut-être que Simenon, justement, finalement, au cours de cet entretien, devient un personnage à la Simenon. C'est un fait divers. Sa fille, c'est un terrible fait divers.
Donc il y a une sorte d'incarnation, ouais. Comme ça, tout d'un coup, qui est quelque chose de très troublant. Et c'est peut-être, oui, en effet, ça qui me... Enfin, en tout cas, pour les gens de ma génération, c'est ça qui était très, très, très nouveau, oui. C'est cette incarnation de la littérature.
Alors, dans mon cœur de téléspectateur déjà vieux, Apostrophe prenait peu à peu la place d'au théâtre ce soir. On se souvient aussi au théâtre ce soir. Les dramaturges s'y faisaient rares. Je crois même pas y avoir aperçu Jean Anouilh, c'est vrai. On était plus tout à fait dans le décor de Roger Hart, mais les permanentes des dames et les cravates des messieurs rappelaient les costumes de Donald Cardwell. Ça, j'aime bien. Et parce que votre livre, Noël Herp, c'est un petit livre, hein, tout petit. Est-ce que vous avez coupé ou...
Oui, j'ai coupé, oui. J'ai coupé, je vous dis, toute cette première partie, qui est une partie un peu de panoramique sur l'histoire de la littérature à la télévision, parce que je voulais en arriver plus vite, justement, au salon paternel.
Oui, et vous avez coupé, alors c'est comme un élixir, c'est une sorte d'essence, de concentré de ces années-là. Après, vous écrivez aussi, Pivot jouait les lecteurs lambda. Il exagérait la naïveté de ses questions, de ses réactions. Il revenait à la charge, ça c'est vrai, sur les secrets d'alcôve, mais sans insister trop longtemps, d'autant qu'il écoutait à peine les réponses, replongeait dans ses notes et passait à autre chose. Donc Pivot, c'est aussi un personnage de Candide.
Oui, c'est ça, c'est un peu un faux Candide qui, bon, c'était en fait un vieux renard, hein,
oui.
Un vieux loup de mer, qui avait déjà une carrière de journaliste, qui avait débuté au Figaro de Pierre Brisson, qui avait d'ailleurs écrit lui-même un roman quand il était jeune,
hein,
dont je ne me rappelle plus exactement le titre, donc qui avait eu lui aussi ses ambitions d'auteur, qui a écrit pas mal de livres par la suite d'ailleurs, hein, qui ne sont pas forcément des livres de littérature, mais bon. Donc voilà, mais il, le personnage qu'il inventait, c'était un faux naïf qui faisait semblant de s'étonner de tout, qui en même temps posait toujours des questions, disons, un peu triviales, de manière à ce que l'écrivain ne s'enferme pas dans un discours et soit ramené toujours à cette espèce d'humanité dont on parlait tout à l'heure. Et puis surtout, je pense qu'il voulait vraiment à chaque fois que ça interagisse avec les autres. Comme un laboratoire de dialogue. Et je cite cette phrase de Sacha Guitry à son sujet, dans Faisons un rêve, quand Sacha Guitry dit il faut jamais interrompre une dispute, ça risque d'empêcher les choses de s'envenimer. Je pense que, voilà, Pivot, il était très content quand il y avait des disputes, et parfois, c'est marrant, parce qu'on a des cendriers qui volent, on a Glucksmann qui se lève en hurlant, en parlant des crimes du communisme.
On fume beaucoup, hein, dans les émissions, j'ai remarqué.
Oui, on fume beaucoup.
On boit aussi
un
petit peu.
Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que la caméra, c'était des réalisateurs attitrés, comme Jean-Luc Léridon, par exemple. Et parfois, il y a des plans volés, il y a des choses qu'on ne devrait pas voir, qui ne sont pas forcément... Parce que je suppose que tout ça devait être un peu préparé en régie. On savait que, grosso modo, on allait cadrer à peu près la personne qui était en train de parler. Il y avait ces moments, d'ailleurs, ce trucage un peu qui revenait un peu souvent de du visage de l'écrivain qui s'incrustait en médaillon dans la couverture du livre. Bon, mais parfois, quand il y avait une dispute, ça partait un peu dans tous les sens, comme chez Pollack d'ailleurs. Et il y avait tout d'un coup ces espèces de plans volés qui donnaient un dynamisme inédit.
Ouais. Alors voilà, vous écrivez, chacun faisait l'article dans son coin, loin des débats d'idées, de naguère et des déchirements autour d'un thème de société. Monsieur Loyal n'avait plus l'air d'y croire, même si sempiternellement, en conclusion de l'émission, il posait à son invité vedette une question censée lui faire prendre de la hauteur. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire ? Ça, c'est vrai que cette fameuse question, parfois un peu indécente, j'avoue, quand c'était des écrivains quand même assez âgés. Je me souviens de l'émission avec Georges Dumézil.
Oui.
Qui a été, d'ailleurs, bon, c'est une très bonne émission parce qu'on voit quand même l'univers de Dumézil qui est absolument fascinant avec tous ses livres. Donc, on rentrait dans l'intérieur d'un écrivain, chez un écrivain. Mais bon.
Oui, mais attention, là, ce que vous décrivez, ce que vous lisez, ce que je décris là,
ouais.
c'est plus tout à fait apostrophe, c'est bouillon de culture. C'est-à-dire que quand il pose la question si Dieu existe, c'est bouillon de culture.
C'est bouillon de culture,
et,
ouais.
Et c'est pour ça que je dis que le monsieur Loyal, il n'y croit plus tout à fait, justement.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait dans bouillon de culture un côté un peu... C'était un bouillon...
Un peu réchauffé.
Et donc, oui...
J'aime faire réchauffer des bouillons, c'est pas bon du tout.
Mais c'était un peu micro-ondes, quoi. Donc, il répétait un peu une formule. Et c'est vrai qu'on s'ennuyait quand même beaucoup plus dans cette émission. Aussi pour une raison, je crois que c'est que les gens étaient en... Comment dire, il n'y avait plus que des... Bon, alors, apostrophe, il n'y avait pas que des écrivains, mais enfin, disons, c'était quand même plutôt
des écrivains.
À Bouillon de Culture, c'était aussi bien des danseurs, des chanteurs, des cinéastes, etc. Ils étaient en promo. Il y avait cette dimension de la promo, qui est une chose qui est apparue dans les années 90. Bon, je ne dis pas qu'à apostrophe, ils n'étaient pas en promo, mais... encore une fois, ça pouvait dérailler et il était vigilant justement pour que ça ne soit pas simplement des discours autopromotionnels. Alors que dans Bouillon de Culture, tout d'un coup, ça devenait un peu chacun dans son coin et sauf qui peut. Hein,
ouais.
Après moi le déluge.
Non, c'est vrai que la même formule ne fonctionne pas à tous les coups. On va faire une pause musicale. Peut-être allons-nous écouter le générique de Bernard Pivot. Oui.
Tout à fait, et le générique de Bernard Pivot est extrait d'un concerto pour piano et orchestre numéro 1 de Rachmaninov, et là c'est par Christian Zimmermann au piano, dirigé par Seiji Ozawa, et c'est le Boston Symphony Orchestra.
Et voilà, vous écoutez Bibliomanie, nous poursuivons notre conversation autour de Ma vie avec Bernard Pivot de Noël Herp. Ça vient de paraître aux éditions Plein Jour. Et c'est un livre très concis, mais ça fait du bien de lire des livres. Finalement, vous n'êtes pas très bavard, Noël Herp, dans les livres. Vous avez choisi
dans la vie, je le suis.
Oui, dans la vie, mais oui, mais vous avez choisi la concision. Et je parlais tout à l'heure, c'est comme un parfum, c'est un petit élixir de ces années 70. Alors, bon, on parlait de Bernard Pivot. Moi, je vois comme un personnage presque, oui, Candide, ou peut-être à la Tintin, je ne sais pas. Il y a un autre personnage qui est un peu son pendant, c'est Claude Jean-Philippe,
oui.
Que moi j'aimais bien. Et vous en parlez de Claude-Jean-Philippe, je vous citais. Le rendez-vous que j'attendais le plus, c'était l'intervention de Claude-Jean-Philippe. Il n'était pas rare que je somnole. Voilà. Et vous dites, ses dents gâtées qui laissaient voir dans un sourire réjoui, ses mèches de cheveux qui retombaient sur le front et que maintenait vaguement une paire de lunettes. C'est une paire de lunettes qu'on voit sur la couverture de votre livre, Noël Herp. Il rabaissait celle-ci pour lire ses fiches avec la peur de n'avoir pas assez de temps pour conclure. Il était le cousin qu'on invite en bout de table à la fin du repas et que l'hôte écoutait de l'œil sur la montre, voilà, pressé de rendre l'antenne. C'est vrai que Claude Jean-Philippe, il est lunaire. Autant pivot et peut-être, je sais pas, moi. Mais Claude Jean-Philippe, je vois comme un personnage lunaire. Et son émission, le Ciné-Club, avec un autre générique d'ailleurs, qui était très émouvant, son générique, de Ciné-Club. Je me rappelle encore.
C'est une valse de Waldteufel, d'Émile Waldteufel.
Ouais.
Une sorte de musique d'orgue de barbarie.
Oui, hein. Très émouvant.
Oui, justement parce qu'il n'était pas en promo, tout simplement.
Ouais.
Parce que tout le monde était en promo, même Pivot, d'une certaine manière, était quand même en promo des auteurs qu'il recevait, puisqu'il devait avoir eu 15 000 coups de fil de l'attaché de presse, lui disant, voilà, comment ça va se passer, gna gna gna. Bon. Or, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que dans ce milieu quand même assez frelaté, où évidemment s'aiguisaient les couteaux de Saint-Germain-des-Prés, avant de passer à table, la scène, Claude Jean-Philippe, il arrivait à la fin du repas, il s'essuyait la bouche, comme ça, et puis il parlait de sa passion, passion qui était complètement gratuite. C'est-à-dire, comme je le dis dans le livre, c'était quelqu'un qui était prêt à se jeter au feu pour Mizoguchi ou pour Murnau. Il n'avait rien à vendre, puisqu'il parlait d'auteurs morts. Et ça, tout d'un coup, ça faisait un contraste extraordinaire entre les calculs du monde, les petits calculs, les petites stratégies littéraires, et puis tout d'un coup, l'extraordinaire pureté du cinéma tel que lui le défendait, évidemment, qui était un cinéma d'avant, un cinéma ancien. Et peut-être que ça a marqué pour moi une certaine différence entre, une certaine aliénation de l'actualité et une fascination du passé en ce que le passé, c'est gratuit. Les morts n'ont rien à vendre. Mmh. Et ça faisait que, souvent, en effet, j'écoutais Apostrophe, un peu en somnolant parce que j'avais envie que ça se termine. faut pas non plus se raconter des histoires, c'était pas toujours passionnant. Ça l'est peut-être plus aujourd'hui que c'est terminé, que c'est justement devenu un objet passé. Et j'attendais le film qu'on nous annonçait. D'abord, j'attendais Claude Jean-Philippe parce que il me touchait beaucoup. Il était une sorte de grand prêtre, enflammé, exalté, avec des formules extrêmement brillantes. À la différence de Pivot, c'était un intellectuel ayant une pensée sur le cinéma. Il avait écrit au Cahier du cinéma, il a écrit des livres remarquables. Et puis ensuite, il y avait évidemment cette espèce de chemin, j'ai pas envie de dire un chemin de croix, mais plutôt un chemin de foi, qui était la contemplation du Ciné-Club. Parce que ça, selon les propos qui s'étaient tenus avant, ça pouvait commencer beaucoup plus tard que prévu, et il fallait regarder des films difficiles quand même, comme En quatrième vitesse de Robert Aldrich, Le grand sommeil de Howard Hawks ou Le signe du lion d'Éric Rohmer, dans ce que j'appelle la résistance à Morphée, parce que pour un garçon de 15 ans, de 16 ans, il fallait quand même tenir. Et beaucoup de chefs-d'œuvre du cinéma, je les ai vus comme ça, demi endormis et peut-être d'autant plus troublés parce que j'entrevoyais.
Ouais. Je pense que vous écrivez, je ne suis pas sûre si c'est au sujet de Claude Jean-Philippe. Bon, je crains de ne pas lui avoir dit sur le pas de la porte combien il m'avait fait aimer le cinéma.
Parce qu'il faut préciser que je raconte souvent dans ce livre les rencontres que j'ai pu faire avec ces hommes remarquables. Je raconte par exemple ma rencontre avec Maurice Druon, avec Marc Fumaroli, et je raconte, on parlera peut-être plus tard de Dominique Noguès, et donc là je raconte comment, écrivant une biographie d'Éric Rohmer, je vais à la rencontre de Claude Jean-Philippe qui me semblait quand même quelqu'un d'un peu solitaire et mélancolique dans son appartement de la rue Rambuteau, et comment je regrette aujourd'hui effectivement de ne pas lui avoir dit à quel point il avait été fondateur pour moi.
Sur le pas de la porte, ça veut tout dire.
C'est toujours le rapport au père. C'est toujours le rapport au père à qui on se reproche de ne pas avoir dit ce qu'on aurait dû lui dire.
Ouais. Alors, il y a d'autres personnages. Julien Green. Je ne sais pas si son côté agent double m'énervait. J'y voyais...
Ça, c'est Claude Mauriac.
Voilà. Je me suis trompée. À travers les personnages...
C'est la mafia cato, ça.
Voilà.
Claude Mauriac n'était pas vraiment cato, mais enfin bon.
Oui, mais il était... C'est vrai que c'est un personnage, Claude Mauriac, que je le revois longiligne, filiforme, presque. Il était très souvent chez Bernard Pivot.
Mais lui, justement, finalement était quelqu'un qui, tout en payant sa dette à son père François Mauriac, voulait avoir l'air dans le coup, voulait avoir l'air dans le vent. Donc il allait fréquenter Jean Genet, Michel Foucault, etc. Très bien. Mais moi, ça m'énervait parce que ce qui m'intéressait, c'était plutôt, encore une fois, le lien avec le père. Il y avait un livre, un des énièmes volumes de Son Temps Immobile qui s'appelait La Terrasse de Malagar.
Oui, ouais.
Et on le voyait, une très belle photo de lui avec son père. Et ça, ça me parlait, ça me touchait. Et je trouvais qu'il n'était pas assez dans la déférence par rapport à François Mauriac, qui était évidemment un bien plus grand écrivain. Voilà, donc mais en même temps, j'étais touché par ce personnage parce qu'il exprimait aussi, à sa manière, avec beaucoup de pudeur, la difficulté qu'il avait eue de dire à son père son amour. Et ça, je trouve que c'est ce qui est très touchant chez Claude Mauriac, et c'est ce qui fait que son Temps Immobile est un journal qui mérite d'être relu, parce que au fond, une œuvre d'écrivain, c'est souvent, même si elle est très longue, beaucoup plus longue que la mienne en l'occurrence, c'est toujours une manière de décliner, de toutes les manières possibles et imaginables, un lien dont on n'arrive pas à se défaire.
À travers les personnages de Monterland, de Mauriac ou de Green, je chérissais la fatalité littéraire que je m'étais construite. Mon père ne me posait pas de questions. Il maugréait contre mon absence de petites amies. Donc chacun ses secrets.
Oui.
On voit ça. C'est un temps. Vous vivez avec votre père, et on va dire une prédisposition familiale. Vous êtes là dans tous les deux dans un. Vous vivez presque
dans
en couple.
Dans un cocon. C'était une vie quasi conjugale du fait que ma mère était partie et on allait au restaurant ensemble, on allait au cinéma, on enregistrait même des pièces de théâtre ensemble le dimanche matin parce que ça c'était mon grand truc de lire des vieilles pièces de théâtre de boulevard et puis de les enregistrer. Je me souviens avoir enregistré comme ça une pièce appelée Monsieur Bretonneau. Mon père reprenait un rôle qu'avait joué Rému. Oui, donc ça c'était un rapport très très bizarre de vieux couple, bien tout honneur évidemment, mais il y avait cette dimension de promiscuité, oui, qui était à la fois un peu sinistre et en même temps aujourd'hui j'arrive à travers la littérature à y voir une certaine, enfin disons à raconter ça comme un bon souvenir.
Oui, parce qu'en même temps vous ni l'un ni l'autre vous empiétez sur le territoire de l'autre, enfin chacun garde un peu ses secrets.
Non, alors évidemment c'était compliqué parce que j'étais quand même dans la chambre à côté. Je me souviens d'ailleurs avoir lu, me souviens de ce moment terrible que j'ai raconté dans un autre de mes livres où je découvre Julien Green à travers ce livre terrible, Adrienne Mesura, qui est le récit d'une jeune femme qui est sous la coupe de son père et qui va finir par jeter son père dans l'escalier. Donc c'est un livre qui m'avait vraiment bouleversé à l'époque. Et moi, j'étais quand même assez corseté puisque mon père dormait dans la pièce à côté. Il avait ses revues un peu érotiques. Moi, j'avais mes choses érotiques comme ça dans mon coin, mais que j'avais mis dans un coffre un peu en évidence, comme la lettre volée d'Edgar Poe, parce que je faisais finalement tout pour que mon père découvre mon pauvre secret, qui était une sorte d'homosexualité un peu contemplative, et qui n'était pas très consommatrice, qu'il n'était pas du tout à cette époque, et qui passait par des représentations. Mais c'est vrai que apostrophe, de ce point de vue-là, nous servait un peu de projection, puisque à travers apostrophe, je pouvais quand même dire à mon père des choses, guetter ses réactions. Par exemple, quand Dominique Fernandez passait à apostrophe et parlait de l'homosexualité, je guettais un peu les réactions de mon père. Ça me permettait d'en parler avec lui. Ça permettait quand même, malgré tout, de mettre un peu de respiration dans ce silence.
Et bien, aussi du dialogue, finalement, dans les
faits. Le dialogue, c'est peut-être beaucoup dire, mais au moins de la respiration.
Une conversation, un dialogue, enfin quelque chose. Alors, il y a des personnages étonnants. Aaron, ça, vous l'aimez pas. Ce qui me gênait chez Aaron, c'est qu'il me semblait une pure création télévisuelle. Quelqu'un qu'on mettait là pour apaiser les tensions, décréter la fin de l'histoire, tirer le rideau. Un deus ex machina, mollasson, qui ne tirait sa légitimité que du désert. Ça, j'ai bien aimé. Alors, Raymond Barre, je me suis bien marrée. Je me suis bien marrée. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté. Raymond Barre, je me souviens, je crois, c'était sur Canal+, ils avaient fait une marionnette. Je ne risquais pas de rater Barre, qui était mon idole, peut-être justement pour son côté raté. Quels que fussent les espoirs qu'on plaçait en lui et sa jovialité sereine, il était aussi antidéluvien que Noël. C'est vrai.
Je pense qu'on se souvient encore moins de Raymond Barre aujourd'hui que de Noël Noël.
Oui, mais c'est quand même, c'était un personnage...
Oui, mais il ressemblait un peu à mon père. Voilà, c'est toujours pareil, c'était toujours des doubles. Hein, toujours des doubles. Et il avait ce côté un peu vieille France. Bon, on se doutait bien dès le début que ça n'allait pas marcher, l'histoire de Raymond Barre. Mais moi, c'est ce qui me touchait. Et puis, il était cultivé, il citait Saint John Perse, qui était un homme des îles, comme lui. Voilà, il avait un côté toujours un peu elliptique et énigmatique, il n'en disait pas trop. Il y avait ce côté concis dont vous parlez. C'est pas grave, voilà. Aujourd'hui, j'avoue que bon, c'est très loin de moi, tout ça. Mais à l'époque, je cherchais quand même, dans apostrophe, des figures de père qui me consolent malgré tout du fait que mon père à moi était un père un peu défaillant.
Ouais. Enfin, c'est des figures aussi qui vous font sourire, qui vous font
oui.
rire.
Moi, peut-être j'avoue pas à que l'époque. C'est... Mais... Peut-être pas à l'époque. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui.
Non, ouais. Mais quand vous parlez de Raymond Barre, je pense...
En écrivant le livre,
ouais.
Oui.
Alors, pour les écrivains, Marguerite Duras, voilà ce que vous écrivez. Ah, vous écrivez. Il n'était nul besoin de poser la question à Marguerite Duras. Elle faisait les questions et les réponses. Elle faisait l'écrivain même, et à plus forte raison quand elle s'exprimait à l'oral. C'est vrai que Marguerite Duras, elle s'interviewait toute seule.
Oui, il n'y avait pas besoin que Pivot soit là, il pouvait revenir. Et puis,
mais néanmoins, on l'a découverte quand même. Moi, je
oui.
pense qu'il y a eu un effet pivot pour Duras.
Oui, complètement. Oui, oui. Bah, parce que Marguerite Duras était une extraordinaire performeuse.
Ouais.
Elle avait un côté art contemporain. Quoi. Elle était là, elle se prenait la tête dans les mains, elle prenait de longs silences, elle avait cette espèce d'exhibition de profondeur qui a énormément marqué les gens de ma génération. Moi, c'est vrai que, comment dire, à partir du moment où la mayonnaise prenait trop, ça ne m'intéressait plus. Quoi.
Ouais.
J'aimais bien que le vinaigre soit un peu tourné.
Ouais. Enfin, c'est vrai que Marguerite Duras, avec son pull, là, moi je me rappelle,
oui.
avec sa petite tenue,
Mais je dois préciser que Marguerite Duras, pour le coup, autant mon père, il aimait Bukowski, il aimait Kazan, il aimait
oui.
comme ça des images d'une Amérique un peu cabossée, d'une Amérique un peu vintage et Beat Generation, autant Duras, c'était plutôt le côté de ma mère.
Ouais.
C'était plutôt, voilà les littératures. Déjà, on parlait de la littérature féminine. Et c'est d'ailleurs sous ce signe que ma mère m'a signalé Annie Ernaux, que j'ai vu arriver à apostrophe avec une certaine méfiance, je dois le dire.
Mmh. Béatrice Beck, c'est un personnage, ça. Mais je la revois physiquement, Béatrice
oui,
Beck.
Oui, elle avait un côté Jeanne d'Arc.
Et puis même un côté, aussi, on la voyait dans un polar, je sais pas, elle avait un côté, Béatrice Beck. C'est vrai que, à vous lire, et on sait. Ces écrivains-là, de ces générations-là, en tous les cas, étaient eux-mêmes des personnages. Alors, il y a la fameuse
oui.
séquence d'Ormesson et Perfit.
Oui, alors ça, c'est vraiment un très grand moment.
C'est un grand moment, hein, où vraiment, je ne sais pas si vous pouvez... Attendez,
alors,
Le vieux polémiste avait ironisé sur l'œuvre ennuyeuse de Roger Caillois et de Marguerite Yourcenar, récemment élue à son fauteuil. « Je tiens, monsieur Perfit, lança le jeune académicien d'Ormesson, pour la dame pipi des lettres françaises. »
Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous savez, Roger Perfit, il faut peut-être rappeler aux jeunes gens qui nous écoutent qui
ouais.
c'était. C'était,
ouais.
c'était un homme qui avait été diplomate, un peu mêlé à la collaboration d'ailleurs, qui ensuite s'était fait une virginité littéraire avec des succès de presse comme Les Amitiés Particulières, qui était
ouais.
un livre sur la pédérastie dans les collèges, et puis ensuite qui avait fait des livres à clé, des livres à clé qui étaient un peu des livres où il spéculait sur les secrets d'alcôve des grands de ce monde.
Complotiste, on va dire.
Un peu complotiste, c'est ça.
Ouais.
Et là, donc, il arrive, et puis il avait fait un livre qui s'appelait L'illustre écrivain, où il crachait son venin sur François Mauriac, qu'il avait poursuivi de sa haine depuis longtemps. Donc là, d'Ormesson, évidemment, lui mord le mollet, non sans sens de la répartie, je dois le dire. Là, je veux dire qu'en découvrant avec Cyril cette émission, que j'avais pas vue à l'époque, j'ai quand même admiré d'Ormesson, qui a le verbe haut, et qui tient la dragée haute à Perfit. Et là, ce qui est très drôle, qu'est-ce qui est très, très drôle dans cette émission, c'est de voir. Un peu comme Gabriel Mazneff avec Denise Bombardier, d'ailleurs, hein, dans cette émission qu'on a si souvent vue et revue depuis, quelqu'un qui se dégonfle, qui s'effondre. Et là, clairement, dans cette émission, on voit Perfit se décomposer, bafouiller, perdre tous ses moyens, rappeler qu'il a quand même des admirateurs à l'étranger, se mettre à dire des mesquineries complètement dérisoires sur d'Ormesson, en disant qu'il va pas, qu'il n'est jamais présent à son bureau à l'UNESCO, etc. Enfin, ça tombe dans le caniveau. Et j'avoue que c'est vraiment quelque chose. Alors aujourd'hui, on a un peu l'habitude parce qu'on voit ça tout le temps. On voit ça tout le temps. Mais, au fond, je pense que ce qui m'intéresse beaucoup en tant qu'écrivain, c'est le passage de la convention à la fantaisie, ou de la norme à la folie. C'est-à-dire ce moment où la rationalité est en train de basculer dans quelque chose d'informe qui n'a pas de nom et qu'on n'arrive pas trop à cerner.
Ouais.
J'aime ces moments de bascule. Oui. Et Apostrophe, ça a été vraiment ça. C'est une émission qui était assez guindée, assez raide dans son dispositif, avec un rituel, l'émission, la musique en début d'émission, le générique, etc. Et en même temps, on regardait ça aussi parce qu'il y avait un côté corrida, il y avait des mises à mort, il y avait des mises à nu.
Ouais. Voilà ce que dit Perfitte. Perfitte vacilla sur son soc. Cher Jean d'Ormesson, vous étiez moins méprisant il y a 20 ans quand je vous convoyais dans les bordels de Bangkok.
Oui,
mais
voilà.
Moi, personnellement, cette séquence, je l'ai vue comme vous. Je trouve pas d'Ormesson très sympathique à ce moment-là, non.
Ah, moi non plus, mais je.
Il y a un côté, mais c'est un grand moment de télé.
C'est un grand moment de télé. Bah, disons que. Non, il n'est pas sympathique du tout. Mais il sort les. Lui qui avait toujours ce côté un peu gentil avec tout le monde, là, pour une fois, il montre l'écrou.
Ouais.
Et il montre aussi peut-être une certaine bassesse qui, de sa part. Hein. Mm-hmm. Je ne dis pas le contraire.
Il est vrai, cher Roger Perfitte, que je vous méprisais moins qu'aujourd'hui. Voilà. Bon.
Vous savez, dans les salons de l'Ancien Régime, je pense que quand on voit les épigrammes de Voltaire sur Fréron, etc., il y avait des vacheries aussi atroces. Hein.
Oui, mais vive la vacherie, pourquoi pas.
Absolument, c'est une tradition française.
Aujourd'hui, c'est tout lisse, on ne dit plus rien.
Absolument.
Voilà.
Ouais.
On va écouter un peu de musique, ça va nous remettre encore en forme. Florence.
Alors, ça ne va pas être de la musique parce que l'invité a apporté un petit extrait de Causerie et vous avez parlé de Sacha Guitry tout à l'heure. Je peux passer maintenant ? Allez, on y va.
Et Versailles vous sera conté par un conteur majestueux dont l'œuvre sera présentée demain à l'Opéra alors qu'il se trouve à Bruxelles. Et c'est de Bruxelles qu'il vous dit par téléphone ses émotions et sa tranquillité souveraine. Nous vous passons Sacha Guitry.
Je suis fort ému en songeant à demain, vous devez bien le penser. Cela va être une étrange première à laquelle je ne participerai pas, me trouvant dans l'impossibilité d'y changer quoi que ce soit. Mais du moins, présentant au public une quarantaine de vedettes, vais-je me trouver parfaitement tranquille en songeant qu'aucune d'elles ne pourra me faire défaut ni me téléphoner ce soir en me disant « je suis malade, excusez-moi ». Toutes elles seront bien portantes et toutes admirables.
En entendant la voix de son maître, le film jusqu'ici immobile sur l'écran s'anime et c'est devant vous le roi Louis XVI contemplant la révolution qui gronde sous ses fenêtres et Rivarol et Méclarion qui persiflent dans les salons.
J'ai désiré vous voir pour la raison que depuis quelques semaines me reviennent aux oreilles des mots d'esprit qui sont de vous et qui sont forts.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie avec Noël Herp qui vous dit tout sur ma vie avec Bernard Pivot. Ça vient de paraître aux éditions Plein Jour. Noël Herp, Sacha Guitry, c'est aussi un phrasé, mais lui, il est jamais passé apostrophe, mais c'est une autre. C'est le phrasé, voilà.
Oui, le phrasé, oui.
Ça, c'est quand même quelque chose d'important.
L'extrait qu'on a entendu est intéressant parce qu'il nous ramène justement à cette question du XVIIIe siècle, du bon mot, de l'épigramme, et qu'a illustré Sacha Guitry, et qu'on retrouve à apostrophe. Je mets en scène, par exemple, ce personnage de Marc Fumaroli, qui était un spécialiste de la littérature classique, et qui, je pense, m'a fasciné, apostrophe, parce que, voilà, il avait ce côté, il parlait comme dans l'ancien temps, il avait un côté à la fois très poli pour dire des vacheries horribles sur Mitterrand et sur l'état culturel de Jack Lang. Hein. J'ai toujours été un peu... Je ne crois pas être quelqu'un de réactionnaire, mais j'étais fasciné, en tout cas à cette époque, par les figures de réactionnaires, quoi, par ces gens qui étaient vraiment bardés de certitudes. Il y avait Louis Powels, il y avait Jean Dutour, etc. Et c'était donc des gens qui avaient une espèce de rapport assez raide à la vérité, au langage. Et en même temps, je guettais chez eux, encore une fois, le moment où ils allaient sortir derrière. Par exemple, Jean Dutour, il était dans un discours anti-68, anti-nouveau roman, gna gna gna. C'était un vieux ronchon, ce qu'on aurait appelé jadis une vieille ganache. Et il tirait sur sa pipe, puisqu'on fumait, à apostrophe. Mais en même temps, je savais qu'il avait quand même eu, comme Louis Powels d'ailleurs, il avait eu une œuvre d'écrivain. Disons que comme mon père, c'est quelqu'un qui s'était encrouté, qui avait renoncé, qui s'était enfermé dans un rôle social qui n'était pas forcément à la hauteur de ses espérances. Et je cherchais à travers le vieil homme académicien, le jeune homme qu'il avait été.
Ouais, vous aimez bien les vieux croutons.
Oui, mais oui, mais parce que je cherche chez eux le jeune homme.
Ouais.
De même que j'ai cherché, je passais mon temps, je le raconte, quand je dînais avec mon père, à essayer de lui rappeler ses rêves de jeunesse, lui demander pourquoi il avait renoncé, à essayer de secouer sa poussière, de secouer ses poux, pour le rafraîchir.
Alors, il y a quelqu'un d'autre dont vous parlez, je crois, dénommé Claude, je crois. Elle,
oui.
Elle était la plume cachée de Jean-Claude Brialy, dites-vous, d'Annie Girardot et de Daniel Delorme. Et j'aimais auprès d'elle reconstituer le chemin qui va de la parole à l'écriture. Comment des confidences enregistrées librement au magnétophone devenaient, grâce à sa rêverie, un texte. Chaque jour qu'elle passait à Berck-en-Mer à dénombrer les battements de paupières d'un emmuré vivant, ça, c'est Bobby, je crois.
Jean-Dominique hein, Bobby, voilà. Oui.
Il se créait entre elle et lui un lien qui ne ressemblait à rien. Je guettais entre les lignes les phrases qu'elle taisait. Cette femme, pourquoi elle vous a... Voilà,
Parce qu'il y a un moment où on cherche aussi, dans une émission comme celle-là, on se cherche un peu soi.
Mm.
Donc, là, tout d'un coup, Claude, elle m'apparaissait... D'abord parce que je la connaissais, et puis parce qu'elle avait ce côté écrivain de l'ombre. Elle devenait tout d'un coup une délégation de moi-même. Elle parlait un peu... Une sorte de... Voilà, elle parlait à ma place. Je m'identifiais à elle peut-être plus fortement que je ne l'aurais fait avec un écrivain qui était dans le feu des Sunlight. Et il y a un passage où je rebondis un peu là-dessus plus tard dans le livre, puisqu'il y a tout un épilogue qui se passe bien après apostrophe, où j'évoque, parce qu'au fond je cherche toujours un peu des connexions entre apostrophe et ma vie. Alors on a parlé de la question des repas par exemple, qui revient souvent dans le livre, qui sont une manière finalement de décliner sur le mode de la conversation et du partage de la table, des plaisirs de la table, ce qu'était de manière évidemment plus prestigieuse apostrophe. Mais il y a aussi des personnages, ensuite il y a les débats auxquels je participe, comme aujourd'hui d'ailleurs d'une certaine manière, aujourd'hui je passe à apostrophe, hein, je répète un peu cette scène primitive. Mais il y a aussi des figures auxquelles je m'identifie, qui ne sont pas forcément des figures d'écrivains. Et je pense notamment à ce personnage que j'évoque à la fin de l'anonymographe de Tulle, Angèle Laval, qui a terrorisé la ville de Tulle pendant des années en envoyant des lettres anonymes. Donc les écrivains du dimanche, les écrivains du secret, les écrivains de l'ombre, auxquels je m'identifie tous plus ou moins parce que je ne me considère pas forcément comme un vrai écrivain. Je garde ce côté un peu caché, un peu tortueux, un peu timide, qui fait que je n'ose pas tout à fait m'affirmer comme un écrivain.
Oui, d'ailleurs, vous écrivez, j'ai du mal à prétendre être écrivain, construire un roman, composer un ouvrage, cela soulève en moi le vertige de l'infini ou d'une limite introuvable à laquelle je me cogne. Je ne suis à l'aise que dans le journal intime, tenu avec nonchalance du temps de ma jeunesse, poursuivi plus régulièrement à partir de mon séjour américain. Ce journal intime, vous écrivez votre journal intime régulièrement, non ?
À vrai dire, non, je vais vous faire un scoop.
Non.
Aujourd'hui, non. Non, j'écris je l'ai fait. Je l'ai fait pendant une vingtaine d'années, et c'est à partir de ça, d'un montage d'extraits de ce journal, qui avait été écrit comme ça, un peu comme une bouteille à la mer, que j'ai fait mon premier livre de littérature, Journal en ruine. Mais aujourd'hui, non. Quand j'écris un... Alors, en ce moment, par exemple, j'écris un livre où je raconte mes péripéties immobilières, parce que je déménage.
Ouais.
Je suis content que ça vous fasse rire.
Et non, parce qu'il y en a d'autres.
Oui, je pense que ça amusera des gens. Mais c'est un sujet, je trouve, inépuisable, de toute façon, la recherche d'appartement.
Oui, et, il y a une émission célèbre là-dessus, d'ailleurs.
Oui, et puis il y a un film de Podalides, en ce moment, qui vient de sortir là-dessus.
Oui, tout à fait.
C'est un sujet qui intéresse les Français.
Ouais.
Bon, voilà, donc là, je fais la chronique de ça. Mais aujourd'hui, je serais peut-être plutôt dans la chronique que dans le journal. C'est-à-dire que j'écris un journal à partir d'un sujet que j'ai décidé de traiter.
Ouais.
Et parce que j'ai quand même envie d'en faire un livre.
Alors, c'est le montage qui vous intéresse.
Les
séquences.
Oui,
les plans séquences. C'est de rapprocher...
C'est d'écrire mon journal tout en ayant un fil rouge de récit. À partir duquel le récit va s'organiser. Mais si vous voulez... Le problème, c'est que moi j'adorerais écrire un journal comme celui de Léoto, qui ferait 5000 pages au jour le jour, etc. Mais le fait de me dire... Je trouve que c'est la forme de littérature supérieure. Il n'y a rien que je mette au-dessus de ça. Et je considère Léoto comme vraiment un des plus grands écrivains du XXe siècle. Mais j'avoue que me dire que j'écris ça et que ça ne paraîtra qu'après ma mort, ça me déprime un peu.
Ouais, il y a de quoi.
J'ai besoin que l'objet existe.
Ouais. Alors, votre expérience aussi du journalisme, je jouais les... Pivot du pauvre en allant interviewer pour 3 francs 6 sous des éditeurs qui me fourguaient leur camelote. Où vous écrivez encore, l'urgence du papier à rendre finissait par l'emporter. Je sortais de ces marathons de dernière minute, épuisé, exalté, persuadé qu'écrire était un horizon que je n'atteignais que par détour.
Oui, le journalisme, c'est une autre forme du journal, finalement. Ouais. C'est écrire des choses courtes parce qu'on n'ose pas écrire des vrais livres. Donc ça, j'ai fait ça pendant des années, aussi bien à Libération qu'à Positif. Voilà, pour 3 francs 6 sous. Bon, ça a été très formateur. Je pense que même si c'était frustrant, même si j'avais l'impression de ne pas être l'écrivain que je rêvais d'être, ça m'a quand même appris à... Un peu comme Bernard Pivot, finalement, qui était un journaliste qui m'a rapproché de la littérature. Ben, le journal m'a rapproché de la littérature. Le journalisme m'a rapproché de la littérature. Parce qu'il a désacralisé l'écriture. Mmh. C'était le fait d'écrire des formes courtes comme ça, d'être lu tout de suite, de passer à autre chose. À la fois, ça vous amène à lire, parce que quand vous êtes critique littéraire, ben, vous lisez beaucoup, vous voyez des films. Mais en même temps, ça vous amène à descendre la littérature de son piédestal et à s'apercevoir que quand vous êtes dans l'urgence du papier à rendre, ben, y a des choses extraordinaires qui se débloquent. Il y a une espèce de structure de la pensée qui fait que, en fait, il n'y a pas forcément besoin de faire un plan, de dégager une problématique, comme on le croit souvent, de préparer les choses à l'avance, et qu'il se passe dans le mouvement de l'écriture, lorsqu'il est spontané, la structure de la pensée, elle se met en place naturellement. Ça, c'est un phénomène qui m'a toujours fasciné. C'est-à-dire que plus on écrit vite, plus on écrit bien. Moi, c'est mon cas, en tout cas.
Ça a été écrit très vite.
Ah oui, très vite, oui, très vite. Je dirais même que les quelques idées de départ que j'avais, elles m'ont plutôt gêné qu'autre chose. J'ai constaté, enfin moi c'est mon expérience personnelle, hein, je suis peut-être de ce côté-là plus admiratif effectivement d'écrivains comme Léoto que d'écrivains comme Gracq. Hein. C'est-à-dire que je considère que le premier jet, la spontanéité, la rapidité sont un gage de qualité de l'écriture. Mmh. À telle enseigne que je suis totalement incapable après coup de réécrire quoi que ce soit. Je peux couper. Je peux remettre en forme ceci ou cela, créer des séquences, comme vous dites, faire du montage, un peu comme au cinéma, si vous voulez. Ouais. Au cinéma, vous ne pouvez pas changer les images que vous avez tournées. Mmh. C'est pour ça que j'aime bien le moment du montage en tant que cinéaste, d'ailleurs, parce que bon, voilà, les choses sont faites et ensuite, il y a ce plaisir du montage. Mais je ne peux absolument pas, en tant qu'écrivain, changer la phrase. Ça, c'est pour
la
moi...
tonalité, le tempo, le rythme.
Non, c'est pas possible, parce que c'est sorti comme ça et pour moi, c'est presque sacré. Enfin, je ne peux pas y toucher.
Est-ce que la première et la dernière phrase...
Je peux couper.
Ouais. Est-ce que la première et la dernière phrase a son importance pour vous?
Première phrase, vous voyez, la première phrase du livre tel que vous le lisez là, c'était pas du tout la première phrase au départ.
Oui.
Elle est venue comme ça parce que j'ai énormément coupé, justement, et que je suis arrivé à cette première phrase qui me paraissait une bonne entrée en matière. La dernière, oui. Elle est pour moi très importante.
Je pense. Nous y reviendrons tout à l'heure. Des personnages qui traversent, bien évidemment, apostrophe. Modiano, alors tout le monde se souvient des... Mime Marceau, j'allais dire, à apostrophe, nous revoyons Patrick Modiano dont les apparitions chez Pivot étaient légendaires. Son oracle était troué de silence, de bégaiement et de lacunes. Donc c'est ce côté un peu...
Oui, parce qu'il y avait des écrivains qui plaisaient chez Pivot aussi parce qu'ils étaient fragiles et parce qu'ils étaient mal à l'aise. Hein.
C'est plutôt positif aussi, ça.
Oui. C'est d'autant plus paradoxal dans le cas de Modiano que c'est un écrivain qui a une grande maîtrise du style. Mais c'est vrai que c'était devenu culte, hein, ces apparitions de Modiano.
Un autre critique littéraire dont les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas, c'est Robert Canters. Il est lui resté que Robert Canters, le vieux critique de l'Express, dont la vue déclinée était là pour réincarner les Tirésias ou les Cassandres qui avaient combattu le nouveau roman. Sa distinction native, la qualité de son langage. Voilà, donc c'est vrai que c'est un personnage, Robert Canters, voilà, on s'en souvient, mais il est comme ça. Edmond de Charleroi aussi.
Alors, si je parle de Robert Canters, c'est surtout pour l'opposer à à Alain Robbe-Grillet.
Oui, voilà.
Parce qu'Alain Robbe-Grillet adorait avoir des punching balls, vous savez. Oui. Robbe-Grillet, quand il a débuté, il avait des critiques comme ça. Et là, il restait plus que Robert Canters. Alors, il était content parce qu'il pouvait avoir le vieux réac auquel il pouvait s'opposer. Mais bon, voilà, je termine ce chapitre en disant que, bon, voilà, ce qui nous amusait beaucoup en revoyant ça, c'est qu'on se disait que finalement, Robbe-Grillet n'aura peut-être pas une postérité tellement plus brillante que Robert Canters.
Edmond Charleroux, qui est passé souvent sur apostrophe, on découvrait qu'elle avait été auparavant davantage qu'une amie pour Maurice Druon et bien plus qu'une petite main pour les Rois Maudits. Donc voilà, c'est un personnage elle est très très souvent passée.
Ah oui.
Et puis il y en a un autre.
C'est une diva des lettres françaises. Ouais. Oui. Et une femme qui avait une classe extraordinaire.
Voilà. Et François Nourricier. Alors, c'est vrai que quand il recevait un écrivain comme Nourricier, il prenait soin de le faire parler au début ou à la fin pour bien marquer la place qu'il allait lui réserver. Il faisait précéder ses questions d'un « alors » qui désignait un morceau de choix.
Alors
voilà.
Alors. C'est-à-dire qu'il se tournait, il remettait ses lunettes, et là, on allait passer à du sérieux, quoi. Avec ouais. François Nourricier, ça allait pas rigoler. Ça rigolait pas beaucoup avec Nourricier, d'ailleurs. Hein. Il était toujours un peu triste.
Morose, d'ailleurs, c'était l'eau grise, son premier roman.
Oui, et puis toujours dans un truc de se déprécier, alors qu'il était un homme de pouvoir absolu.
Oui,
hein. Il régnait sur les lettres françaises.
Complètement. On va faire une petite pause musicale. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais on va faire une petite pause.
Alors, cette fois, ça va être une vraie pause musicale. Et là, vous allez avoir une surprise parce que c'est un disque qui n'est pas encore sorti. Et c'est un disque de jazz. Oh, je me suis trompée, pardon. C'est un disque de jazz de Santi De Briano et Orchestra Bembe. L'album s'appelle Ashanti, ça sortira le 23 juin. Et là, nous avons un titre, je vais me taire hein, pour l'écouter, mais il faut que je vous explique, composé par Ray Cero et qui est un hommage à Thelonious Monk. Ray Cero, c'est un saxophoniste baryton.
Thank you.
vous écoutez donc une avant-première d'un disque qui paraîtra le 23 juin de Santi Debriano et Orchestra Bembe. Le disque s'appelle Ashanti. Et là, vous écoutez le morceau Mr. Moon qui fait un peu penser à Mingus par moment. Allez, vous êtes sur Radio Libertaire.
Et voilà, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Nous parlons de Ma vie avec Bernard Pivot, de Noël Herp. Ça vient de paraître aux éditions Plein Jour. Noël Herp, c'est vrai que finalement, il y a les perdants et les gagnants au jeu de la postérité. Nous venons de parler de François Nourricier, donc je doute qu'on lise encore son œuvre. Vous m'avez parlé de même du Tour, je ne suis pas sûre qu'il soit très lu, même si les éditions Le Dilettante viennent de republier un de ses livres. Il y a des écrivains dont vous ne parlez pas, mais qui ont été très souvent chez Pivot, par exemple Françoise Malé-Joris, qui sont tombés vraiment... Et je ne suis pas sûre, en réfléchissant, et c'est la grande richesse de votre livre, Noël Herp, je ne suis pas sûre que... pas citer une célèbre émission littéraire actuelle, mais je ne suis pas sûre qu'on pourrait faire le même livre avec cette émission littéraire actuelle.
Non, peut-être pas, parce qu'il y avait quand même une plus grande diversité du paysage littéraire.
Et puis des vrais personnages avec de vraies personnalités.
Oui, enfin, je veux pas non plus. Alors bon, je veux pas non plus être dans la nostalgie du c'était mieux avant, mais je crois quand même que, si vous voulez, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui écrivent pour témoigner de sujets sociétaux, etc. Donc ils deviennent, ils sont dans les feux de l'actualité parce qu'ils ont témoigné d'un truc dramatique qui leur est arrivé quand ils étaient enfants ou ceci ou cela. Mais j'ai pas alors que malgré tout, ce qu'on peut dire de beaucoup de gens que j'évoque là, c'est que c'était des gens qui croyaient à la littérature. Mmh. Qui croyaient à la littérature et qui croyaient qu'ils allaient durer. Qui croyaient quand même que leur livre allait... leur assigner une place singulière, que leur petite musique allait rester. Et c'est ça aussi qui me touche énormément quand même, c'est cette croyance. Je parle de Suzanne Proulx, oui. Je parle de gens comme ça qui passaient chez Pivot et qui, oui, bah, Béatrix Beck, et qui croyaient quand même que leur étoile allait rester au ciel des lettres. Bon, ça redeviendra peut-être le cas un jour. D'ailleurs, peut-être qu'on se remettra à lire Béatrix Beck. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour ça, pour cette fragilité de la vocation littéraire et finalement le côté assez dérisoire de tout ça, parce que de toute façon, qui lit quoi, qu'est-ce qui reste, tout ça est très relatif.
On se souvient tous aussi des apparitions de Guy Hockenheim, par exemple.
Alors Guy Hockenheim, c'est différent, parce que Guy Hockenheim...
Même Guibert, par exemple, oui. Aussi. Oui. Il y a eu des personnages marquants d'apostrophes qui sont passés comme ça, d'une totale sincérité, je veux dire.
Et puis il y a eu aussi des météores, comme Valérie Valère, ouais. J'en parle, de Sylvie Caster, qui à l'époque était un personnage très coruscant, comme je le dis dans le livre, et qui fascinait beaucoup mon père. Et puis il y avait les électrons libres, comme Bukowski.
Oui.
Voilà, il y avait aussi cette... Et ça, Pivot aussi savait accueillir des gens qui représentaient une certaine marge ou une certaine limite. C'est peut-être cet aspect-là qui intéressait le plus mon père, le côté déglingué. Hein. Le côté déglingué. Et peut-être le seul moment, je le dis dans le livre, où je me suis un tout petit peu retrouvé avec lui, c'est celui où passe Kazan, parce que Kazan, c'était à la fois le grand cinéaste américain classique que j'admirais parce qu'il avait fait Un tramway nommé Désir, Un homme dans la foule, etc., qui est un film sur la télévision d'ailleurs, prémonitoire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec Trump. Et en même temps, mon père, lui, il aimait plutôt le Kazan maudit, le Kazan politiquement incorrect et qui avait quand même fait des choses qui lui avaient valu le discrédit que l'on sait. Et puis le Kazan écrivain de la fin aussi, puisque Kazan, à la fin de sa vie, devient écrivain. Et donc on se retrouvait autour de ce personnage. Il y a eu quand même des moments de partage d'un même personnage qui nous intéressait tous les deux, ce qui n'était pas si fréquent.
Ouais, vous écrivez Henri Herp, donc votre père, aimait ce genre d'icône d'une masculinité cabossée, répondant à travers l'oreillette aux questions de Bernard Pivot, le vieux boxé m'impressionnait.
Oui, parce qu'il y avait ce truc de l'oreillette, etc.
Oui.
Mais, et puis il y avait ce truc, le goût de l'Amérique. Hein. Il y avait un livre d'Yves Berger, Le Fou d'Amérique, qui avait beaucoup marqué. Il y a Norman Mailer est passé à apostrophe aussi. Donc il y avait vraiment aussi ça, le fait que apostrophe, parfois on avait des grands écrivains américains qui arrivaient, et puis alors tout d'un coup c'était la grand-messe, quoi. En tout cas, à la maison, c'était la grand-messe. Parce que pour les gens de la génération de mes parents, la grande littérature, c'était la littérature américaine des années 60 et 70.
L'Amérique, c'était pour les parents. Mon père relisait Kerouac, il peaufinait à son sujet un scénario de film auquel ma mère prêta la main. Cela s'appelait Jacques le Vagabond. Oui, donc, votre père aussi, donc, ça avait ce goût pour le cinéma que vous avez eu, que vous avez toujours.
Oui, alors c'était plutôt... Oui. Mais alors lui, il aimait, il me parlait de films, je me souviens qu'il me parlait d'un film qu'il avait vu qui s'appelait Pilgrimage, de Benny Montrésor. Alors ça l'avait fasciné. Des choses comme ça, des films comme ça qui n'intéressaient que lui. Oui, il n'avait pas une cinéphilie vraiment très raisonnée. Et je pense que quand je regardais le ciné-club, bon, lui, il allait se coucher. Ou il me disait d'aller me coucher. Bon, il y a ce souvenir que j'ai souvent raconté, pas que dans ce livre. Mais là, j'étais vraiment tout petit. J'avais lu dans le dictionnaire de Georges Sadoul qu'il fallait absolument voir l'année dernière à Marianne Bad d'Alain René et Rob Grier. Et puis là, ça passe au ciné-club. Et là, mon père me dit non, c'est pas pour toi, tu vas te coucher. Et j'ai pleuré toute la nuit en suppliant d'aller... que mon père me laisse voir l'année dernière à Marianne Bad, peut-être même au-delà de la fin du film. Donc ça, c'était vraiment... le cinéma pouvait aussi, me fasciner aussi, peut-être parce qu'il était un territoire que je m'étais approprié au-delà de mes parents. Ou en deçà de mes parents.
Et d'ailleurs, pour Kerouac, je crois que c'est ce sujet-là, à propos de Kerouac, que vous écrivez, je lisais la chose en diagonale, peu sensible à cette mystique du déracinement. Donc,
Le scénario. Mais cela dit, j'ai découvert Kerouac par la suite. J'ai découvert aussi qu'il avait des attaches bretonnes, ce qui m'a intéressé. Et j'ai lu, par exemple, sa théorie à Paris avec beaucoup de bonheur, quand je suis devenu pigiste à Libération. Là, j'ai quand même un peu élargi mon répertoire, je vous rassure. Je ne me suis pas cantonné toute ma vie à Monterland et à Mauriac.
Mais en fait, ce moment-là, c'est des années clés pour vous, puisque vous forgez votre sens critique, Noël Herpe. On sent... Puis il y a la rencontre aussi avec Cyril, qui est importante.
Ah,
pour
ça,
vous.
C'est plus tard, oui.
Voilà.
Disons qu'il y a un peu... trois étapes dans le livre. Il y a l'étape apostrophe avec mon père, début des années 80. Il y a la deuxième étape où je me mets à m'installer tout seul et je regarde Bouillon de Culture.
Voilà.
Et où là, je commence à devenir critique littéraire et à me forger mon propre goût. Pas forcément à cause de Pivot, d'ailleurs. Car je le raconte dans le livre, il y a peu de livres que m'a fait lire Pivot. À part peut-être le fameux livre de Jeanne Deberghe, alias Catherine Robbe-Grillet, Cérémonie de femmes, que je lis pour des raisons qu'on peut dire pudiquement extra-littéraires. Sans grande admiration, d'ailleurs, pour le style de l'auteur, mais parce que, évidemment, la thématique sadomasochiste m'intéressait. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, m'étant moi-même mis à écrire des livres, je redécouvre tout ça avec une délectation particulière avec Cyril, et 20 ans après, si j'ose dire. Puis à ce moment, assez... peut-être cruel, assez pervers de ma part, où je propose à mon ami Dominique Noguez, qui était passé à Bouillon de Culture, pour un livre qui avait eu le prix Fémina, je crois, Amour Noir, un de ses plus beaux livres, je lui propose de revoir le Bouillon de Culture où il était passé 20 ans plus tôt, ce qui n'était pas très gentil de ma part, parce que cette mission s'était pas bien passée, et il a dû revivre à cause de moi son calvaire 20 ans après, en me racontant qu'il avait essayé de rattraper le coup. Après, parce que Pivot l'avait embarrassé en lui posant l'éternelle question « Mais alors, c'est votre vie sexuelle que vous racontez, c'est de vous que vous parlez ?» Il avait essayé de garder son quant à soi en ne disant pas trop de lui-même et il s'était un peu fait déstabiliser.
C'est vrai qu'il y a eu des... Voilà, c'est un jeu qui peut être dangereux. Vous dites « Je jouissais de cet affrontement spectaculaire où l'interdit reprenait forme. » Ça, c'est au sujet d'apostrophe, Noël Herpe,
oui,
que vous écrivez.
Sur... je ne sais plus à quel moment.
Au moment où quand Pivot recherche un peu justement ce goût du clash, du conflit, d'aller au bout, d'un côté jusqu'au boutiste. Et puis il y a des bonnes trouvailles toujours. J'étais tombée sous le charme apostrophe d'une poétesse qui s'appelait Marie-Claire Blancard. Blancard. Et qui éditait Anatole France dans la Pléiade. C'est vrai qu'il y a des personnages comme ça, de savants, de spécialistes qui sont passés apostrophe.
Évidemment, il se trouve que Marie-Claire Blancard, elle a été mon directeur de recherche à la Sorbonne.
Oui.
Et en fait, quand je parle de cet interdit qui reprenait forme, c'est aussi que j'évoque une spécialiste, tout aussi oubliée aujourd'hui, qui s'appelait Ginette Guitaroviste, qui a écrit une biographie de Jacques Chardon et qui va s'en prendre très violemment à un jeune auteur, un jeune auteur femme qui avait écrit un livre de confidences érotiques. Donc effectivement, il y avait aussi ce côté, la rencontre des générations. C'est-à-dire qu'il y avait des gens de l'ancienne génération qui tout d'un coup Était choqué par ce que pouvaient écrire les jeunes. De même qu'il y a ce moment que je raconte où un homosexuel qui raconte qu'il a adopté un enfant sans passer par donc par la procréation hétérosexuelle, tout d'un coup il se heurte à un vieux professeur de médecine qui dit bah non, la manière d'avoir des enfants c'est la manière normale et traditionnelle. Vous voyez, donc ça me plaît beaucoup parce que quand on voit la télé de cette époque-là, on s'aperçoit que on a toujours l'impression que les années 80 c'était la liberté sexuelle, qu'avant c'était autre chose. Ben non, les époques, elles sont imbriquées les unes dans les autres. De même que vous avez aussi ces moments incroyables, incroyables, où vous avez face à face Bernard-Henri Lévy et Maurice Bardèche. Et Maurice Bardèche qui justifie les plus immondes propos antisémites de Brasillac. Et en face, vous avez Bernard-Henri Lévy qui, à juste titre, se rengorge dans sa fureur. Donc, il y avait des... C'était pas simplement le choc des personnalités, c'était le choc des époques. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné.
Pour revenir donc à Marie-Claire Bancard, lors de ma soutenance de mon mémoire,
elle vous obsède, hein.
Qu'elle dirigeait, elle conservait sa tête de sphinx. C'est pour ça, c'est vous qui l'avez. Oui, fixant oui. Au-delà de ma personne, on ne sait quel point invisible, nullement impressionnée par les inédits que j'exhumais, elle me reprocha de n'avoir pas compris Mauriac. Mais, et puis, vous évoquez aussi, je crois, Pascal Jardin.
Oui.
À un moment donné, ce qui m'a donné envie de regarder Pascal Jardin apostrophe, c'est l'une de ces boîtes à livres qui fleurissent à chaque coin de rue. On y trouve pêle-mêle des collections du Reader DGS, des numéros de Science et Vie, les best-sellers de voilà. Et c'est vrai, les fameuses boîtes à livres finalement sont peut-être les.
Oui, parce que ça oblige par le fait du hasard à redécouvrir des auteurs qu'on n'aurait jamais lus sans ça. Par exemple, là, je me suis plongé dans l'œuvre de Pierre Benoît. Dont je découvre, c'était un très grand écrivain.
Oui, bien sûr.
Alors que je m'en serais jamais douté, figurez-vous.
Antinéa.
Oui, là, j'ai lu Mademoiselle de la Ferté et Le Pays du Roi Lépreux, et je me suis aperçu que c'était un très grand romancier. Donc, voilà, Pascal Jardin, je l'ai redécouvert comme ça. Mais bon, si j'en parle aussi, c'est parce que mon père adorait La Guerre à Neuf Ans, Le Nain Jaune, tout ça. C'était justement cette question du rapport entre le père et le fils, puisque justement, Pascal Jardin était le fils d'un ancien collabo de Vichy. Et que donc, mais qui était un personnage un peu déglingué et fantasque. Et donc, il raconte ça dans une émission d'apostrophe où il est confronté à Alain Jouffroy, qui lui avait été un disciple d'André Breton. Et il se trouve que mon père, qui avait été un jeune journaliste dans les années 50, sous l'influence de Louis Powels, avait rencontré André Breton. Et en même temps, il adorait Pascal Jardin. Et donc, il y a toute une sorte de carrefour comme ça, un peu conflictuel et sensible, autour de ce rapport au père, ce rapport au passé. Mon père, finalement, comme je l'ai dit, défendant un peu des combats d'arrière-garde, ayant eu malgré tout une certaine fidélité au surréalisme. Ce Robert Canters, dont je vous parlais tout à l'heure, il l'avait connu. Donc, c'était aussi à chaque fois une manière pour moi de ranimer des Rosebuds. Et là où je suis heureux aujourd'hui, c'est que j'ai quand même le sentiment, étant donné la plutôt bonne réception qu'a le livre, de parce que j'ai été à l'écoute de ce Rosebud paternel, de ces Rosebuds paternels, d'avoir en même temps retrouvé une sorte de Rosebud collectif qui n'attendait qu'à se réveiller.
Vous dites, une parole me traverse, me faisant oublier mes inquiétudes et mes obsessions. Le cadre que j'ai mis en place pour préparer mon propos s'estompe. Il n'y a plus que des phrases qui avancent toutes seules. Parce qu'il y a le cadre d'apostrophe, c'est un cadre. Il y a aussi le rapport avec votre père. Et puis, c'est un livre, on sent vraiment le livre en train de se faire, la recherche d'écriture, voilà. Est-ce que d'ailleurs Bernard Pivot a lu votre livre?
Je lui ai envoyé avec une très gentille dédicace. Je n'ai pas eu de retour à ce jour. Mais en tout cas, Bernard Pivot, il faut l'avouer, n'est pas le personnage principal du livre. Il est un peu un fil rouge.
Il est un
cicérone dans le labyrinthe, un guide dans le labyrinthe de mes souvenirs. Pour moi, le personnage principal de ce livre, c'est quand même mon père.
Ouais. C'est le fil conducteur de votre livre ou pas?
Aujourd'hui, je dirais ça, oui. Je pense que même quand mon père n'est plus là, il est encore là.
Qu'est-ce qui vous a amené finalement à la littérature? Est-ce justement les écrivains? Parce que finalement, le personnage de l'écrivain, les livres, les écrivains, est-ce que votre premier souvenir littéraire à part apostrophe?
Comme tout le monde, Les Trois Mousquetaires. J'ai un souvenir très, très. Parce que je suis en train de lire L'Éducation sentimentale en ce moment, que je n'avais jamais lu.
Oui.
Mais j'ai le souvenir qu'un de mes premiers travaux de cinéma, puisque j'étais très tôt aussi attiré par le cinéma, ça a été de faire une adaptation de Madame Bovary. J'ai écrit à 12 ans. Une adaptation de Madame Bovary qui devait être très mauvaise d'ailleurs, où j'avais retiré des scènes très importantes du livre pour en faire un objet soi-disant cinématographique. Donc il y avait déjà cette articulation quand même entre la littérature et le spectacle, hein. Je crois que c'est quelque chose d'important chez moi. Je me suis toujours tenu un peu entre les deux. Et je pense que ce livre est peut-être un peu un livre de renoncement au spectacle pour assumer un peu plus ma vocation d'écrivain. Un peu moins timidement qu'avant, en tout cas.
C'est une voix off ou c'est un récit intime ? Enfin, c'est un récit, quand même.
C'est un récit en trompe-l'œil, puisque je pars effectivement d'apostrophe et même d'Au Théâtre ce soir, vous l'avez bien dit, qui est une émission qui m'a fasciné également, que je voyais plutôt chez ma grand-mère, pour essayer de ressaisir à travers toute cette caverne de Platon, tous ces fantômes évanouis, tous ces jeux d'ombre sur le mur, essayer d'identifier ma propre voix d'écrivain. Je ne dis pas que j'y suis arrivé. Mais
ce livre vous a changé ? Est-ce que ce livre, vous vous sentez différent après l'avoir écrit ou pas ?
Non, mais je sens que...
Ou ça vous ouvre une voie ?
Le lien avec le public et avec la critique est un peu différent.
Ouais.
Peut-être parce que ça vient après d'autres livres qui ont été bien reçus, comme Souvenir Écran. Mais là, il y a vraiment quelque chose de collectif, qui est de l'ordre du partage. Mmh. Et j'ai eu quand même cette idée, vous m'avez demandé tout à l'heure si j'avais eu une idée. Et je me suis dit, Bernard Pivot, c'est bien parce que c'est quelque chose que je peux partager avec les autres. Alors qu'avant, je faisais plutôt des livres d'introspection solitaire. Par exemple, j'avais écrit un livre qui s'appelait Mécène primitive, où je parlais de mon rapport très intime au théâtre de boulevard et au vieux théâtre des années 30. Mais moi, c'est un livre que je revendique tout à fait, mais qui touchait peut-être moins, parce que ce n'était pas une référence aussi communément partagée que l'aisselle d'apostrophe.
Et est-ce que on sent que vous laissez aussi la place au lecteur ? Voilà votre dernière phrase. Il y a une chaise vide à côté de moi. On l'invite à prendre place. Je me tourne vers lui. Qui êtes-vous ? Donc il y a l'absence, il y a les absents, on sent que... Et vous laissez. C'est un livre où il y a des silences hein, quand même. Tout n'est pas dit.
Tout n'est pas dit, et Dieu merci.
Voilà.
Non, mais moi je pense qu'on ne doit pas forcément faire des livres de 500 pages. Hein. Il peut y avoir autant d'intérêt à la concision qu'à la digression. De ce point de vue-là, j'ai peut-être un idée la classique, je ne sais pas. Puis je vous dis, j'ai plutôt tendance à couper. Alors ensuite, la fin, qui êtes-vous ? Bah oui, c'est une rencontre.
Ouais.
C'est une volonté d'ouverture. Une volonté de sortir de la scène, finalement. Mmh. De sortir de la scène pour aller vers l'autre, ce qui est pour moi quelque chose de tellement difficile. Je parle aussi à un moment de cette scène où je suis enfermé et où je regarde des vieux écrivains apostrophes et où des gens passent à travers la vide dans la rue et où je rêve qu'un de ces corps vienne vers moi pour franchir la scène et pour venir presque à mon secours sur cette scène où je suis orphelin.
Mmh. Vous dites, la télévision ressemblait de plus en plus à ma maison, puisqu'à un moment donné, vous évoquez hein, votre lieu de vie. Le lieu de vie est très important aussi.
Ah oui, oui. C'est-à-dire que chaque épisode est lié à un décor de ma vie.
Voilà.
Il y a apostrophe, il y a bouillon de culture, mais à chaque fois, c'est lié à un décor qui est d'abord celui de mon père, ensuite celui de la rue Montorgueil, où j'ai un studio que j'ai habité pendant quelques années, que ma mère avait rebaptisé Pobouille, parce que ça avait un côté dernier étage d'un immeuble parisien. Et puis ensuite, l'espèce d'atelier un peu informel où je vis actuellement, rue Saint-Ambroise, et qui est une sorte d'énorme fourre-tout, où j'ai fait des films, où j'ai fait des expositions, où je reçois mes amis, mais qu'en même temps, n'est pas vraiment un lieu de vie, qui est un lieu ouvert et en pignon sur rue, et d'où les gens peuvent me voir le soir, lorsque je m'affale sur mon canapé, avec le chat, en regardant apostrophe.
Il y a des gens qui vont passer rue Saint-Ambroise pour faire photo.
Oui, ils auront, ils auront peu de chance parce que là, je suis en train de déménager.
Eh ben voilà. Mais on sent que la maison, le lieu d'écriture, la bibliothèque, à quoi ressemble votre bibliothèque ?
Elle est en sous-sol parce que je ne veux plus voir les livres. Ils me saturent, ils m'étouffent, ils m'emprisonnent et je préfère ne pas trop les voir.
Les cassettes VHS, enfin les anciennes, vous en avez les...
J'ai tout numérisé. Pour justement que ça... Mon obsession, c'est aujourd'hui pas de place perdue. Et comment dire, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, je l'appelle un lieu pour écrire, parce que je me dis, au fond, on n'a pas besoin d'avoir 15 000 choses autour de soi, simplement un lieu pour écrire, et un lieu pour la rêverie, et un lieu pour la contemplation, un lieu où il n'y a pas de bruit, et où il n'y a pas trop de livres, parce que je pense que si vous êtes étouffé de livres, je me souviens de l'appartement de Claude Mauriac, par exemple, que j'ai un peu connu, qui croulait sous les livres, il y avait même des manuscrits de Proust à ce moment-là qui gisaient à terre dans son appartement de l'île Saint-Louis. C'était terrifiant et je me disais, cet homme est complètement bouffé par les mots, bouffé par les mots des autres. Et ça, non, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir. Je me demande même là si je vais pas... Vous savez, c'est pour ça que j'étais content de vous apporter des CD aujourd'hui, parce que ça m'a permis d'en jeter pas mal.
Nous vous remercions, d'ailleurs.
Je vous en ai donné un,
d'ailleurs. Voilà, très bien, on va écouter.
Au raison de la voix de Françoise Sagan,
voilà.
Dont il est question dans le livre aussi.
Ouais.
Mais je me demande si je vais pas jeter des livres aussi. On garde beaucoup trop de choses. Et je pense que je suis là dans un mouvement plutôt d'essayer de... Si j'ai envie de revivre mon passé, c'est à travers l'écriture et c'est ça qui est important.
Vous écrivez à la main ou sur ordinateur ?
Ordinateur.
En musique ?
Sur iPad même. Oh non, surtout pas en musique. J'écris, je vais parfois dans un square à côté de chez moi, le square Gardette, voilà, qui me permet de m'isoler un peu, même s'il y a toujours évidemment des gens qui passent et des sources de distraction. Mais j'essaye de rendre le dispositif d'écriture le plus léger possible. Peut-être parce que justement, je reviens de loin et que la littérature a été quelque chose pour moi de tellement impressionnant.
C'est un long chemin pour vous.
C'est un long chemin qui n'est pas fini. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur le qui êtes-vous, c'est important de dire aussi que qui êtes-vous, c'est la question de Bernard Pivot.
Oui.
C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je termine là-dessus ? C'était pas concerté de ma part, mais
non.
C'est l'éternelle question de... Le mystère de l'individu, le mystère, l'énigme de la subjectivité dont je parlais tout à l'heure. Et cette question, il l'a posée dans ses émissions. C'est peut-être ça aussi qui m'intéressait.
D'où venez-vous, allez-vous et qui êtes-vous surtout ?
Qui êtes-vous ?
Oui, c'est le temps présent. Bernard Pivot, c'est vrai, c'est le temps présent. L'apostrophe, c'était une... On est dans le présent, on est dans le présent d'une époque.
Mais oui, et puis disons qu'il aimait à faire cracher aux écrivains leur vérité.
Ouais. Ce qui est... Le titre du livre, est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé, l'éditeur ?
Dois avouer que c'est plutôt l'éditeur.
C'est plutôt l'éditeur.
Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais appelé ça la scène, mais bon, c'était un titre peut-être un peu ésotérique.
La couverture, on voit une paire de lunettes. C'est votre idée à vous ou c'est
Non, mais je trouve que c'est une très bonne idée.
C'est une très bonne
idée. Très bonne idée.
Est-ce que,
c'est à la fois les lunettes de Pivot et celles de Claude Jean-Philippe.
Oui, ouais. Il y a des lettres, il y a des réactions là, bon, j'imagine.
Ah bah, des tonnes, oui. Non. Là, vraiment, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que cette. Voilà, ce livre de révérence et de référence, ironique évidemment, et un peu buissonnière, me valent tant de retours. Je pense que, vous savez, les Français sont à la fois des gens qui aiment brûler leurs idoles et qui en même temps ont besoin quand même un peu de les retaper, quoi, de se rappeler que bon bah voilà, il y a quand même des choses qui les ont formés, qui les ont accompagnés dans leur formation. Et il ne s'agit pas forcément, moi je ne veux absolument pas que ce livre passe pour un livre de nostalgie.
Ce n'est pas un livre de nostalgie, c'est un livre de devenir. Vous êtes dans le devenir, voilà. Toujours, vous êtes dans la création, vous êtes dans le devenir, vous êtes dans l'interrogation.
De mélancolie peut-être quand même.
Il y a de la mélancolie, mais je dirais que c'est aussi... on pourrait lire comme un film aussi. Il y a du noir et blanc, voilà. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, mais il y a du noir et blanc. Vous évoquez d'ailleurs Marie-Thie Gilbert-Carpentier, et là c'était le même, parce que la télé de Bernard Pivot, c'était aussi le temps de Marie-Thie Gilbert-Carpentier dans un autre domaine. Mais il y a du noir et blanc.
Et de Guy Lux.
Et c'est vrai que, non, vous n'êtes pas du tout dans la nostalgie, on sent que c'est, ce livre va être le... Voilà, il y aura une suite.
Oui, c'est une manière de, à chaque fois, chaque livre est pour moi une manière de renaître de mes cendres.
Voilà.
Mais il y a aussi la dimension du spectacle. Vous voyez, par exemple, là, je l'ai donné en spectacle à la Maison de la Poésie. Mm-hmm. Ça a été un grand moment de bonheur parce que ce livre est aussi conçu comme un spectacle avec des dialogues, avec des réparties, avec des étapes, premier acte, entr'acte.
Oui,
etc.
Voilà, ça, j'ai oublié de vous poser cette question-là parce que c'est très théâtral dans la composition.
Absolument. Donc, j'ai très envie aussi de faire entendre ce livre, de le. Parce que je pense aussi qu'il y a une dimension de musicalité, et j'ai vraiment envie de l'incarner aussi, ce livre, en tant qu'acteur, parce que c'est aussi un aspect qui est important pour moi.
Acteur, agir, l'action. Action, comme on dit au cinéma. On peut vous voir, on peut vous rencontrer prochainement, je crois, Noël Herp.
Alors, il y aura une signature, une nouvelle signature, le 8 juillet à 11h30, à la librairie Préférence, à Tulle.
Tulle, voilà. Alors, si...
Non loin de la maison natale d'Éric Rohmer, qui est un projet dont je m'occupe, et voilà, et pas loin d'une maison que je me suis achetée en Corrèze. Donc voilà, c'est un pays merveilleux, et dont je parle d'ailleurs, cette librairie Préférence de Tulle, c'est le décor, puisqu'on parlait du décor, c'est le décor sur lequel se termine mon livre.
Il y a d'autres conférences, puisque je sais que vous faites beaucoup de conférences sur le cinéma, il y a d'autres rencontres.
Alors, il y aura également une rencontre à l'IMEC, où se trouvent les archives de Bernard Pivot, à l'IMEC, à l'abbaye d'Ardennes, à côté de Caen. Donc ça, je pense que ce sera début octobre. Et puis, je me permets, voilà, très modestement, de dire que j'ai un nouveau livre qui va bientôt sortir, chez Capricci, qui est plutôt un livre d'historien du cinéma, sur les travestis dans le cinéma.
Vaste chantier.
Vaste sujet.
Bah, merci à vous, Noël R, pour Ma vie avec Bernard Pivot. Ça vient de paraître aux éditions Plein Jour. Bah, c'est un livre ami, comme on dit, et comme petit livre de chevet. On fait penser un peu à Frédéric Vitoux, quelque part. On peut le lire dans le désordre. Il y a, voilà, avec... Et puis surtout aussi des traversées de Paris, je trouve. Des évocations, vous suggérez à l'époque du Champollion, l'époque, oui. Voilà, toutes ces époques qu'on a connues à Paris. Et merci à vous tous.
Au revoir. Merci à vous.
Je pense, alors on pourra réécouter l'émission sur le site de Radio Libertaire, à travers le podcast, et je suppose que nous allons avoir une musique de fin.
Oui, nous allons avoir une petite musique de fin parce que là, il y a les missions sur la littérature prolétarienne qui arrive, qui est en train de s'installer. Et puisque vous avez évoqué des tas de portraits, eh bien, je vais finir par le portrait du contrebassiste Santi Debriano, extrait du disque qui va paraître fin juin chez je ne sais plus quel label. Bref, c'est pas grave parce qu'on n'a pas le temps, il reste que 3 minutes.
Je me répète que t'es banal, on se console quand on écrit. Entre un papier blanc de poèmes et une chope protectrice, je me ménage mes dernières brèmes, mon poker je me joue gratis. J'essaie d'oublier tes je t'aime, de mépriser tes artifices dans un pichet de bière de brème. Il est bientôt 2h10. Entre une horloge et les guitares et le comptoir de bois verni, je me sens l'âme d'un fêtard, d'un balayeur ou de Jésus-Christ. Chez moi l'alcool n'est pas bavard, chez moi l'alcool jamais ne crie. Chez moi le feu est en retard quand on me chante, tu viens, chérie. Entre mon cœur et ma mémoire brouillée qui s'enfuit, je t'attends encore dans le noir, je t'attendrai encore et puis tu vas venir, je veux y croire. Je me fous qu'il soit 2h30. Tu vas venir, tu vas venir, tu vas venir. Garçon, un demi.
tout au fond de l'océan. Je t'aime aussi dans le rire de la nacre au bois dormant. L'hippocampe et la licorne se battent pour la couronne. Leur crinière fière s'orne de perles et d'anémones. L'arabesque du décor grave avec la soie et l'or les petites métaphores se plongeant dans l'eau qui dort. D'acier très fine entoure l'écho gracile des madones clandestines rêvant sur l'onde fragile. Je t'aime dans le porphyre tout au fond de l'océan. Dans le riz.